Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Conditions humaines, un podcast qui a pour but de répondre à des questions existentielles afin de donner du sens à nos expériences de vie. Bonjour Dominique.
Bonjour Pyrène et bonjour à ceux et celles qui écoutent ce podcast.
Pourquoi vous parlez de dialogue avec l'inconscient ?
Dialoguer avec son inconscient suppose déjà que son existence soit reconnue, ce qui n'est pas avéré dans la culture dominante. Il y a toute une partie de la population qui prend en considération l'inconscient et une autre moitié qui considère que ce n'est qu'un concept théorique. Or, l'inconscient, si je me réfère à Jung, est une réalité objective, aussi objective que peut l'être notre rencontre.
Qu'est-ce que ça signifie, de dialoguer avec son inconscient ?
Cela signifie une reconnaissance de l'inconscient, c'est-à-dire cette partie invisible, constitutive de la psyché humaine, que la culture dominante depuis l'époque de la Renaissance, le siècle des Lumières, a mis de côté. Ce qui a eu pour conséquence de rendre l'individu un unijambiste. Il a deux jambes, il ne fonctionne que sur une seule jambe qui s'appelle le conscient et il entretient le déni qui est l'autre partie manquante, l'inconscient. Or, cette autre partie manquante est une réalité objective qui agit à l'insu de notre plein gré. Et que nous aurions tout bénéfice à dialoguer avec l'inconscient de manière à rapatrier ces matériaux du monde invisible, à les rapatrier dans le monde visible, de manière à pouvoir prendre la responsabilité dans nos vies. Quelqu'un qui a deux batteries et qui ne fonctionne que sur une va finir par avoir une psyché dévitalisée. Et non seulement il aura une psyché dévitalisée, mais en plus il ne pourra pas prendre la responsabilité de ses actes, puisque ces actes qu'il n'assume pas vont s'enraciner dans l'inconscient qu'il ignore.
Donc il tapera toujours sur l'extérieur.
Effectivement, ça va alimenter cette attitude généralisée qui consiste à mettre l'environnement à l'origine de ce que l'individu vit. Il y a une différenciation entre deux interlocuteurs. Là, nous parlons du dialogue entre conscient et inconscient. Ça signifie qu'il y a bien, deux instances en présence, le conscient et l'inconscient. Et dialoguer, ça veut dire que ce pont entre conscient et inconscient, visible et invisible, eh bien, il n'est pas censuré, il n'est pas coupé en deux. Que l'énergie circule de l'un à l'autre, exactement comme un pont qui permettrait à deux rives de se rejoindre.
Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner ?
De dialogue avec l'inconscient ? Mm-hmm. Ah ben, par exemple, le matin quand je me réveille, moi je prends le temps d'ouvrir mon courrier et je regarde les rêves. Parce que dans le langage des rêves, il y a tout un roman personnel, toute une symbolique personnelle, et l'inconscient qui veut se rendre visible, eh bien, va me solliciter, moi en tant que rêveuse, pour assurer ce passage du monde invisible, qu'on appelle l'inconscient, au monde visible qui est le conscient.
Est-ce que tout le monde est en mesure de dialoguer de cette façon-là, de...
Ça s'apprend.
D'accord.
Ça s'apprend. La culture dominante fait peu de cas de l'activité onirique, alors que ce n'était pas ça qui se passait il y a encore quelques siècles.
Par exemple.
En Afrique, c'est toujours d'actualité, en Égypte ancienne aussi. La fonction onirique a toujours été honorée et reconnue, parce qu'elle était considérée à ce moment-là comme en étant un dialogue entre Dieu et les hommes. Hein? C'est pour ça que cette notion d'inconscient, petit à petit, j'ai dit que c'était un mot contemporain, ça a remplacé toutes ces divinités, l'Olympe et tous ces panthéons de dieu et de déesse.
Vous dites qu'établir ce pont et ce dialogue, ça s'apprend. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos auditeurs?
Déjà, la première des choses, de s'intéresser à leurs rêves, même si ils n'en comprennent pas le langage symbolique parce qu'ils n'y sont pas sensibilisés, au moins ils ouvrent le courrier du matin. L'inconscient ne fait pas de la publicité destinée à un classement vertical. L'inconscient donne des informations qui sont utiles au moi conscient du rêveur pour s'orienter dans la vie.
Est-ce que ça laisse sous-entendre que le travail sort un peu tout seul? À partir du moment où on considère ses rêves, on peut déjà envisager que le dialogue se fait tout seul?
Alors, il y a une chose importante à acter, c'est que l'inconscient, il peut rien tout seul, mais que le conscient, il peut rien tout seul. Ils ont besoin l'un de l'autre. Parce que le conscient n'est qu'une émanation de l'inconscient. Mmh. Il est sa source. C'est bien le dialogue avec l'inconscient qui va permettre à la psyché d'un individu à se ressourcer, à se vitaliser. Pourquoi croyez-vous que nous dormons? Le sommeil est très important au niveau biologique, au niveau de l'équilibre physique, mental, mais il est fondamental au niveau psychique. On sait que le sommeil est bon pour le cerveau et pour toutes les connexions neuronales. Donc cette activité nocturne que l'on appelle l'activité onirique, eh bien, vous témoigne de ce que l'inconscient il travaille tout seul. Mais quand vous vous souvenez d'un rêve au matin, cela souligne que l'inconscient a besoin d'une contribution active du moi conscient pour se rendre visible. C'est comme si, si une rivière était coupée de la source qui l'alimente, elle finirait par se tarir. Eh bien, le moi conscient, c'est pareil. S'il est coupé de la source qui l'alimente, eh bien, il va déprimer. Il ne sera plus alimenté.
D'accord. Pour résumer, une personne qui exprime à travers l'art, qui laisse sortir des choses inconscientes de lui,
oui.
Quelqu'un qui va se souvenir de ses rêves, ou en tout cas s'y intéresser,
oui.
S'intéresser à la signification, il ouvre le dialogue, il est plus ouvert. Et,
oui.
Et ce dialogue, une fois établi, qu'est-ce qu'il permet? Un équilibre psychique, un bien-être?
Ah oui, oui, oui. Le dialogue conscient-inconscient participe de l'équilibre mental, psychique, émotionnel et physique. Hein, c'est pour ça que nous pouvons dire que l'inconscient est un grand thérapeute. Il veille à cet équilibre. Vous me donniez l'exemple d'un artiste, qui, étant un peintre, il se plante devant une toile blanche et il se met au service de son inspiration. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut définir l'inspiration? Il y a quelque chose en lui qui va parler et qui va se rendre visible. Et au bout de quelques heures, il y a quelque chose qui va s'exprimer sur sa toile qui n'existait pas quelques heures auparavant. Donc l'artiste, il fait le pont entre ce qui vient du dedans et qui veut se rendre visible à l'extérieur. Tous les artistes ont cette vocation-là. Et j'ai envie de dire qu'un rêveur, c'est un artiste qui a pour vocation de permettre au monde invisible de se rendre visible.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui constitue l'inconscient?
C'est une question qui est embarrassante, c'est comme si vous me demandiez qu'est-ce qui constitue l'univers. L'univers, nous avons accès à notre système solaire, nous allons de plus en plus loin, et plus nous allons loin, et plus nous découvrons que l'horizon s'éloigne, et bien l'inconscient, c'est pareil. L'inconscient, c'est ce monde invisible qui est illimité, universel, constant, et que nous avons une grande difficulté à définir ses contenus. Le psychiatre suisse Jung s'y est employé, et l'élément qu'il nous a fourni, c'est de dire que les éléments constitutifs de l'inconscient sont les archétypes, dont l'ombre est un archétype majeur, et je vous renvoie au podcast à ce sujet. Donc voilà, c'est une question... ce serait prétentieux que de dire « voilà les éléments constitutifs de l'inconscient ». Moi, je ne m'intéresse que à comment ce monde invisible se manifeste dans le monde visible. Parce que ça, j'y ai accès consciemment, aux manifestations dans le monde visible de ce monde invisible. C'est pour ça que je m'intéresse autant aux rêves, aux actes manqués, aux lapsus, aux arts, puisque toute forme artistique a vocation à rendre visible ce monde invisible. Voilà, et que les êtres humains s'évertuent depuis des millénaires à rendre visible ce monde invisible. Même à travers différents cultes, différents rituels, ce monde invisible est honoré. C'est vrai que depuis que les dieux et les déesses ont disparu, eh bien on a vu apparaître la psychologie moderne, avec l'étude des psychoses et des névroses. Mais l'intérêt pour ce monde invisible a toujours existé. Et l'être humain, l'humanité, a toujours tenté d'établir un pont entre ce monde visible et ce monde invisible. Et ça a pris de multiples formes. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Le pont entre le monde visible et le monde invisible. Que l'on appelle, en termes contemporains, le dialogue avec l'inconscient.
Puisque l'inconscient est constitué d'archétypes, est-ce que vous pourriez nous donner la définition d'un archétype ?
Oh, la définition la plus simple, parce que c'est très très complexe, la notion d'archétype, c'est un courant de vie. Moi j'ai tendance à dire la chose suivante, toute forme manifestée dans le monde visible a son équivalent dans le monde invisible. Eh bien, l'archétype, c'est le schéma invisible de toutes les formes visibles sur notre planète. Donc, ils sont extrêmement nombreux. Maintenant, il faut bien différencier l'inconscient collectif, dans lequel regorgent les archétypes, qui sont des principes universels, des schémas, des patterns, comme on dit, des schémas universels propres à toute l'humanité, de l'inconscient personnel, qui, lui, est issu de l'expérience personnelle d'un individu. Mais les deux sont reliés, inconscient personnel et inconscient collectif. Retenez cette idée, il y a toujours un pont entre l'individu et le collectif, entre le visible et l'invisible. Et ce pont, ça s'appelle le dialogue.
Est-ce que l'inconscient peut livrer au conscient toujours le même message ?
Oui, c'est ce que l'on appelle les rêves récurrents. Ou les accidents récurrents, ce que l'on nomme les répétitions, il y a un système d'alerte mis en place par l'inconscient parce qu'il y va de l'équilibre psychique, mental, émotionnel du moi conscient. L'inconscient va s'évertuer à alerter le conscient qu'il y a une orientation qui n'est pas à son bénéfice. C'est bon, la notion de dialogue entre conscient et inconscient, elle passe par reconnaître que nous avons à disposition un inconscient qui n'est pas notre ennemi, mais qui est notre, comment dire, notre stock d'énergie pour faire face justement à la vie. Et ce dialogue, dans la mesure où il permet la circulation, la fluidité entre deux rives que sont le conscient et l'inconscient, et si le moi veut bien faire office de pont entre ces deux rives, eh bien l'énergie va circuler. Et si l'énergie circule, ce qui était invisible jusque-là va devenir visible. Et ce qui est visible peut être assumé. Donc cela va permettre à l'individu de gagner en responsabilité, de gagner en assurance et de voir toutes les angoisses qui le submergent se déliter. Donc cette notion de dialogue, elle est fondamentale. Pour moi, c'est un thème de santé publique, le dialogue entre conscient et inconscient. Nous aurions peut-être beaucoup moins de monde dans les maladies mentales si ce dialogue était favorisé par nos systèmes éducatifs.
Si je comprends bien, l'inconscient est toujours bienveillant, quelle que soit la tonalité du message, en tout cas, quelle que soit la perception qu'en a le conscient.
Voilà. Ça fait partie des éléments qui nous invitent à dialoguer avec l'inconscient. C'est que l'inconscient n'est pas notre ennemi, il est bienveillant, il est le garant de la santé mentale, psychique, émotionnelle et physique de l'individu. Et donc, dans ses récurrences, ses rêves récurrents, dans ses appels, il veut alerter le moi conscient du danger qu'il encourt, parce que justement, le moi conscient a une position unilatérale qui ne tient pas compte de tout ce qu'il a été amené à réprimer pour satisfaire aux exigences de l'environnement. Or, ce qui a été réprimé n'a pas été supprimé, et donc ça participe, tous ces éléments réprimés, non assumés, participent des éléments constitutifs de l'inconscient.
Donc on peut considérer qu'un cauchemar, une situation de vie désagréable, n'est pas forcément malveillante, pas du tout même.
D'abord, la notion de cauchemar, c'est une appréciation qui appartient au moi conscient, civilisé et ignorant de l'inconscient. Hein. Un individu avisé verra dans son cauchemar le témoignage de ce que la libido, l'énergie psychique, n'est pas libre de circulation parce que le moi, campé dans ses certitudes, s'oppose à cette libre circulation. Le moi qui doit satisfaire à des exigences narcissiques et aux exigences de l'environnement est tout à fait prompt à réprimer ce qui viendrait altérer son idéal narcissique. Donc les cauchemars remettent sous le nez du rêveur des matériaux moins nobles qu'il ne peut pas assumer parce que ça contrarierait la belle personne qu'il s'efforce d'être. Mais je redis quelque chose d'important, c'est que ce monde invisible veut se rendre visible, qu'il s'agisse d'une grâce, hein, d'un talent, d'un don, ou qu'il s'agisse d'une angoisse ou d'une partie grossière du personnage. Tout veut se rendre visible. C'est le moi qui censure.
Quand vous dites le moi, on est bien d'accord que vous parlez du conscient.
Je parle du moi conscient qui, lui, a un enjeu à préserver qui est l'idéal du moi. Et ça, c'est une conséquence de notre éducation. Cet idéal du moi va s'orienter davantage vers l'angélisation que prendre la responsabilité des parties moins nobles de l'individu. Parce que dans l'inconscient, se côtoie aussi bien le civilisé que l'archaïque, le grossier que le subtil. Et vous pensez bien que dans le modèle de perfection dont se fait fort l'éducation, nous penchons collectivement et individuellement sur une idéalisation de nous-mêmes, hein, au détriment de tout ce que nous avons dû réprimer pour satisfaire cet idéal.
Pour finir, comment notre monde serait si tout le monde dialoguait avec son inconscient ?
Nous aurions de plus en plus d'individus autonomes au niveau psycho-affectif, donc de moins en moins projectifs, et donc en dialogue avec eux-mêmes, vous pouvez dialoguer avec les autres. Ce qui fait que le dialogue avec l'autre, qui parle d'altérité quand même, hein, est déficitaire, c'est bien parce que le conscient ne dialogue pas avec l'inconscient et que le conscient trouve que la modalité projective lui permet de se délester de ce qu'il n'assume pas.
Par exemple, quelqu'un qui rêve d'un meurtre,
oui,
qu'il commet un meurtre,
oui,
si son conscient n'a conscience, est-ce qu'il va passer à l'acte, enfin, on a du mal à imaginer l'articulation.
Oui, mais non.
J'ai du mal.
Si vous rêvez que vous commettez un meurtre, ça pourrait parler de votre pulsion meurtrière, dont nous sommes quand même tous dépositaires. Hein. Ça parle de votre agressivité, ça parle aussi du conflit que vous pouvez avoir avec quelqu'un, un conflit que vous n'arrivez pas à régler. Ça vous angoisse terriblement, cette pulsion meurtrière. Mais en dialoguant avec l'inconscient, au lieu de la réprimer, et c'est dans ce cas-là que vous devenez dangereux. Parce que ce qui est réprimé va vous pousser à un passage à l'acte, et donc vous plaiderez non coupable, puisque vous n'avez pas voulu ça.
Si je comprends bien, l'inconscient se manifeste aussi bien dans notre vie nocturne, à travers les rêves, sous différentes formes, et dans la vie diurne, à travers des accidents de vie, des répétitions, et aussi dans la relation, finalement.
Oui, l'inconscient s'invite dans tous les espaces de la vie diurne. Ce serait intéressant que le moi conscient puisse réaliser que l'inconscient qu'il ignore est agissant, est influent, et voire même des fois détermine des situations. Et pour moi, l'homme évolué, l'homme qui a grandi, c'est l'homme qui petit à petit prend la responsabilité de tous les contenus de son inconscient. C'est comme ça que se construit un être autonome que l'on appelle un sujet, qui au niveau psycho-affectif va pouvoir prendre la responsabilité de ses actes, de ses paroles et de ses pensées.
Bien, merci Dominique. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez, et on se retrouve au prochain podcast, thématique
déterminée.
À déterminer.